RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Le Super Football Show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, soyez les bienvenus chez vous dans l'after, hashtag RMC Live. On débute par ça, on est ensemble pendant deux heures, on est ensemble jusqu'à minuit. Je sais pas comment on fait avec les WAD, pour ceux qui sont branchés sur BFM Sport bien entendu, ce soir il est là, il est beau, je mets le nœud pape à l'endroit. Ali Benarbia, bonsoir Prince Ali.
Salut, avec Nicolas.
Tu l'as
bien redressé.
Oui.
Ça, t'es tout beau comme ça. J'aime beaucoup.
François Malardo également est là. Il est tout beau lui aussi.
Bonsoir. Moi je vais faire une imitation d'Ali Benarbia.
Vas-y.
Salut Nicolas Villas. Bonsoir.
Les résultats d'aujourd'hui, 27e journée de Ligue 1. Ça a débuté par un spectaculaire 3-3 entre Toulouse et Monaco. Supporters du TFC et de l'ASM, on vous attend au 32-16. Dijon a battu Caen, 2-0. Victoire d'Angers à Lille, 2-1. 2-2 entre Guingamp et Metz. Rennes s'est imposé 2-0 face à 3. On ne tient plus Jérôme Thomas, bien entendu. Et Amiens est allé s'imposer 1-0 à Nantes. Ça bouge pas mal au classement. Alors tout en haut, ça bouge pas. Le Paris Saint-Germain est leader avec 68 points, juste devant Monaco, 57 points. Monaco qui n'a plus que 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Marseille qui joue demain face au Paris Saint-Germain, vous le savez. Lyon est 4e avec 6 points de retard sur l'OM. À la 5e place, on a Montpellier avec 39 points. Égalité de points avec Nantes. Du coup, Rennes qui est 7e, eh bien, n'est qu'à 1 point des Nantais. Des Montpellierains. À la 8e place, on a Bordeaux qui jouera face à Nice demain et qui est à égalité de points d'ailleurs avec les Aiglons. À la 10e place, on a Guingamp avec 35 points également. On a 4 équipes à 35 points. Bordeaux, Nice, Guingamp, Dijon avec 33 points. 12e, on a Saint-Etienne qui a son derby face à l'OL demain. Caen est 13e avec 32 points. Strasbourg est 14e avec 31 points. Amiens est 15e avec 29 points. C'est un point d'avance sur Toulouse et sur Angers et sur Troyes. On a en position, donc, en avant-dernière position, Lille avec 27 points et Metz qui est dernier avec 19 points.
Qu'est-ce que c'est serré?
Ouais, c'est hyper serré.
Quand c'est serré, c'est bon.
C'est bien.
En Ligue 2, un petit résultat également. Brest a battu le PFC 1-0. Brest qui est à 4 points du podium. Hein, et le PFC qui reste 4e. Liverpool a battu West Ham en Angleterre 4-1. Et 0-0 entre le Bayern et le Hertha. Sachez que le Real a gagné 4-0 face à Alavés. On sera tout à l'heure en Angleterre avec Philippe Auclair. On sera en Espagne avec Fred Hermel. Il y a également du rugby ce soir pour Racing, 14e journée, 18e journée d'ailleurs, de top 14. C'est Paul Lafitte qui est au stade du Hameau. Salut Paul.
Salut Nico, bonsoir à tous. Effectivement, quasiment à l'heure de jeu ici au stade du Hameau avec ce score de 16-3 en faveur de la section paloise face au Racing 92. L'info, Nico, de cette soirée, c'est la sortie sur blessure et ça a l'air assez sérieux de Teddy Thomas, hein, l'ailier du 15 de France, l'ailier du Racing 92, puni par Jacques Brunel qui n'a pas disputé le France-Italie et qui était donc titulaire ce soir pour cette rencontre. Sorti sur blessure, ça a l'air sérieux. On se renseignera évidemment à la fin de la rencontre pour savoir de quoi souffre Teddy Thomas, l'ancien joueur du Biarritz Olympique. Au niveau du plan shot du tableau d'affichage à l'heure de jeu, donc 16-3 en faveur de la section face au Racing 92.
Voilà, et sachez qu'en ce moment même, le Barça mène 4-1 face à Girona en Espagne. 0-0 entre l'Inter Milan et Benevento. Et Passos au Portugal mène 1-0 face au Benfica. On joue depuis une heure de jeu. On va débuter par le plus important. Le plus important, c'est.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Prince Ali.
Nantes. Ben voilà, je commence au premier point. Nantes et notre ami Ranieri. Il était déjà pas trop content en début de saison, puis après au Mercato. Et depuis pratiquement, on va dire, 2 mois, on reconnaît plus cette équipe de Nantes. Et cette porte concernant la sélection italienne, je sais pas si elle va pas venir au moment, mais bon, Nantes a l'habitude, on l'a vu avec Conceição.
Le président Kita est déjà au parfum depuis un moment. Hein.
Oui, voilà, exactement. Donc ça se ressent dans le jeu. Il n'y a plus de jeu. Guingamp a vraiment du mal. Je ne reconnais plus cette équipe cette année, alors que Comboiré avait déjà fait du bon travail la saison dernière. Cette année, c'est pas du tout évident pour cette équipe de Guingamp, car en plus d'avoir du mal à l'extérieur, elle a du mal à domicile face à la Lanterne. Elle devait perdre ce match, elle s'en sort avec un match nul, mais on retrouve plus du tout
la dynamique. Alors ça fait 3 nuls de suite, mais ça fait 3 nuls et une victoire.
Mais c'est dans le jeu, dans le contenu, que je reconnais plus ce club et encore plus à domicile.
Tiens, sachez qu'il y a eu une grosse embrouille entre Antoine Camboré et Fred Hans. Alors, et ça continue dans le tunnel visiblement.
Oui.
On essaiera d'être tout à l'heure avec Xavier Grimaud, notre correspondant qui est sur place pour avoir plus d'informations, mais ça a été très
une embrouille avec
le Canac n'est pas content.
Ça peut partir exactement.
Ça peut partir.
Exactement.
Et ton dernier point, c'est sur le choc demain entre Paris Saint-Germain et
le PSG OM. On a une très très bonne entrée avec le derby OL Saint-Etienne, mais c'est ce match-là qui va nous intéresser, qui va nous exciter. Pourquoi ? entre une équipe du PSG qui est en train de penser à son match retour et ses deux confrontations face à l'OM et cette équipe de Marseille qui veut absolument prendre des points pour ne pas lâcher cette deuxième place et ne pas voir revenir Lyon. Ces deux équipes sont sous pression pour différentes raisons et c'est pour ça que je pense qu'on va avoir un très bon match électrique.
Match à suivre demain à partir de 20h hein, sur RMC bien entendu. François Manardo, tes trois points.
Mon premier point c'est Toulouse qui est un peu dans la lignée de ce qu'a déclaré Cahuzac dans l'équipe aujourd'hui, qui disait que cette équipe avait eu un électrochoc, elle en avait besoin avec le changement d'entraîneur, le départ de Pascal Duprat et l'arrivée de Bev qui était déjà l'adjoint, et je trouve que le résultat arraché contre Monaco cet après-midi en tout cas fait la preuve des capacités, de la force mentale de ce groupe. Je pense que si Duprat avait été toujours à la tête du TFC, ce Toulouse-là perdait contre Monaco, qui lui est supérieur de toute manière. Et on a vu un très beau match cet après-midi, on va en reparler, mais surtout ce résultat toulousain qui confirme la santé mentale de ce groupe. Le deuxième point, c'est un joueur qui est pas méconnu vraiment en France, mais dont on parle pas beaucoup.
Il est parce parti très jeune, ouais.
Il est parti très très jeune. On en disait le plus grand bien en 2009-2010, lorsqu'il faisait ses classes. C'est Gael Kakuta, ses classes à Chelsea. Et je pense que c'est un des joueurs, quand il est dans de bonnes dispositions, ouais, ou quand il a un peu la volonté de le faire, qui a des très très grandes qualités en Ligue 1. Et il a été le déclencheur de la victoire angevine à Nantes ce soir. Et le dernier
point, Amiénoise.
C'est Angers pareil, a gagné à Lille et Amiens s'est imposé à Nantes, à la Beaujoire. Et puis la dernière chose qui concerne le match demain et l'affiche entre le PSG et l'OM, la conf de Dimitri Payet qui explique qu'il est dans le plus grand club français. Je trouve que c'est de la démagogie de circonstance. Oui, quand tu compares le palmarès européen, palmarès tout court même au niveau de l'Hexagone, mais une Ligue des Champions c'est plus fort qu'une Coupe des Coupes, oui, hein, Ali. Maintenant, y a une forme de démagogie de se mettre un peu le public marseillais dans la poche à la veille du Classico, et c'est un peu facile de tirer sur cette corde-là, cette ficelle-là.
On va l'écouter d'ailleurs tout à l'heure, hein, Dimitri Payet, extrait de la conf de presse. Il est aujourd'hui en conférence de presse, tout comme Rudy Garcia. Je donne mes trois points, moi aussi. Ça débute par le premier match de ce samedi, à savoir Toulouse-Marseille, Toulouse-Monaco. Ce qui est marrant, c'est le discours d'après-match. C'est vraiment, on va vraiment, alors il y a eu 3-3, on le rappelle, entre ces deux équipes, hein, Monaco qui a mené largement au score pendant un long moment. Debeuf qui a expliqué, tout comme d'ailleurs Andy Delors, qui avait plus marqué depuis un moment, depuis le mois de novembre. Andy Delors n'avait plus marqué. Debeuf qui a dit, c'est vraiment une victoire. Et à l'inverse, Jardine lui a dit, ça a vraiment un goût de défaite. Et c'est vrai que ça relance un peu plus encore cette course à la deuxième place. Mmh. Alors, Marseille devra réaliser l'exploit demain et battre le Paris Saint-Germain. Mais s'ils y parviennent, ou s'ils arrachent un nul, ils pourraient revenir à un point, ou même, voire même passer devant Monaco. Le deuxième point, c'est Lille. Parce que Lille a perdu ce soir 2-1 face à Angers, une équipe qui va pas bien du tout non plus, le SCO. Ça fait une victoire en 8 matchs pour Lille. Ils sont même plus barragistes, les Lillois. Ils sont avant-derniers ce soir. Alors, il y a tous les problèmes administratifs qu'on connaît. La DNCG qui leur court après. Il y a la suspension de Campos pendant un mois. Enfin, on a l'impression que rien ne va plus au sein de ce club. Même le scénar du match, il est terrible pour eux. Parce que Pépé égalise, on se dit, bon, ils vont au moins arracher le point du nul. Et dans la minute ou les deux minutes qui suivent, doublé de Toko et Kambi.
Surtout le deuxième but qui est fantastique.
Et puis moi, je dis vivement demain. Alors, il y a effectivement le match entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Il y a le match entre
Bordeaux-Nice.
Moi c'est même pas. Il y a celui-là qui est intéressant.
Qui va être intéressant.
Mais il y a le match entre Lyon et Saint-Étienne. Mais il y en a un autre, moi, qui m'excite beaucoup et qui sera à suivre d'ailleurs sur SFR Sport à partir de 15h. C'est Manchester United face à Chelsea. Parce que Liverpool a gagné aujourd'hui. Liverpool est passé devant Manchester United. United qui va pas bien du tout, qui sort d'un 0-0 que t'as vu d'ailleurs, François, à Séville en Ligue des Champions, qui était franchement pas folichon. Et ça va être pas mal, hein, la dualité en plus, c'est entre Mourinho et Conte. Donc ça s'annonce plutôt sexy tout ça. On aura un gros dimanche sur nos antennes. Bien entendu. On va débuter par l'un des matchs de la soirée, Lille-Angers. On venait de l'évoquer il y a quelques instants. Victoire d'Angers, 2-1, doublé de Toko Ekambi. Pépé qui avait marqué en toute fin de match, qui avait égalisé, mais Toko Ekambi a claqué le deuxième but dans les deux minutes qui ont suivi. Troisième match en victoire.
Superbe volée de Toko Ekambi, un peu de l'extérieur comme ça, qui va se loger petit filet opposé. Magnifique.
C'est le quatrième match en victoire pour Lille. Ça fait 2-0, 2 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils ont une victoire sur les 8 derniers matchs, je vous le disais. Et Angers qui était pas bien, qui restait sur 3 défaites d'affilée.
Le dernier.
Ouais, c'est terrible.
Avec 25 points.
Ouais.
C'est-à-dire que même en battant, je veux dire, Lille, ils passent devant Lille que d'un point, Angers. Ils avaient 25 points, ils étaient vraiment pas bien. Et Lille, qui allait pas bien, s'enfonce de plus en plus. Mais ce club-là, depuis le début, si la plupart des actionnaires pensent qu'on peut reprendre un club tout effacé, repartir à zéro, avec des joueurs étrangers et pouvoir être en Ligue 1 avec des joueurs plus ou moins qu'on pense qui sont bons et tenir un petit peu la route, moi je peux dire non, ça n'existe pas.
Ça existe.
Ça n'existe pas.
Ils l'ont fait avec des moyens.
Qui l'a fait les Qataris?
C'est beaucoup de choses.
Ouais, mais c'est pas les mêmes moyens.
Ils ont effacé Comboiré au bout de 6 mois. Non mais
la différence, c'est que les Qataris arrivent, ils recrutent des stars.
Non, mais pour moi, le projet Lopez, c'est juste qu'ils
sont. Pas bien comparé. Trouve-moi quelqu'un d'autre, mais
ils ont quand même pris l'éponge et effacé une grande partie du.
Non plus.
Ils sont montés en gamme. Ils n'ont pas pris des jeunes.
Rappelle-toi, il n'y a pas eu 10 arrivées d'un coup au début. Tu te souviens qui arrive?
Je te l'accorde.
Au PSG?
Non, c'est vrai. Ali a raison.
Un peu pastoré, un peu
ça a été moins violent. Tu as raison. Ça a été moins brutal. Il me semblait que ça avait été quand même assez brutal d'emblée, mais non, tu as raison. Ça a été progressif rapidement, mais ça a été.
Le problème, c'est que là, ils ont mis toute une équipe dans un loft. Lille, je parle. C'est-à-dire que les Bacha, les Mavouba, les Nyama, dans un loft, alors qu'ils étaient sous contrat, et ils ont ramené des joueurs à tout va.
Ali,
pas de Ligue 1.
On en avait parlé, je pense, en début. Pas en début de saison, mais quand ça a commencé à mal se passer pour Lille, dans une émission avec Ali, c'est qu'ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier argentin, qui s'appelle Marcelo Bielsa. Et ça n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné.
Je vais aller plus loin, moi. Je pense que ça aurait pu fonctionner si Bielsa venait à Lille. Mais sans tous ces joueurs, en gardant le même effectif.
Mais c'est pas ces joueurs. Hein. Enfin, là, pour le coup, il y a une responsabilité qui est globale.
Non, attends. C'est qui? C'est Campos?
C'est tout le monde. Non, mais c'est tout le monde. C'est Gérard Lopez qui fait un casting qui prend pas, qui dit, bah écoutez, on va faire un recrutement. Marcelo, t'as besoin de quoi? Luis, bah par rapport au profil, aux caractéristiques qu'il veut, qu'est-ce que tu peux lui proposer? Mais c'est global.
Non, mais il fallait l'aval de Bielsa. Mais le problème, c'est que si tu es un entraîneur de renom que tu connais, déjà, tu n'effaces pas tout un effectif à zéro. Tu reprends un club et Lopez le premier et Campos, tu gardes déjà l'effectif. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas bien que automatiquement la saison d'après ils vont faire la même saison.
Il y a des erreurs dans le fait d'avoir lâché des joueurs qui étaient dans ce loft en début de saison. Parce que tu le vois,
ils ont essayé de les récupérer cet hiver.
Et c'est pas bon.
Tiens, il y a une réaction de Jonathan sur l'hashtag RMCLF qui nous dit Lopez a confié un lance-flamme à un pyromane qui a pratiqué la terre brûlée en faisant table rase du passé. Ça allait dans le sens un peu de ce que tu disais, François.
Qui a fait la table rase?
Je pas des tables.
Un peu les trois.
On va accueillir Baptiste, supporter du LOSC, qui nous a appelé au 32-16. Salut Baptiste.
Bonsoir tout le monde.
Salut Baptiste.
Alors Baptiste, toi t'étais au stade, mais paraît que t'as même pas vu le but de Pépé, je crois d'ailleurs.
T'es parti. Bah,
c'est la première fois, moi je suis abonné au LOSC depuis, je ne sais plus combien d'années, et c'est la première fois de ma vie que je pars avant du stade. Mais au bout d'un moment, c'est un petit peu trop, quoi. Et là, il se passe plus rien, on n'a même pas l'impression qu'il y a beaucoup d'envie. Cette saison, elle est triste et je pense que si elle se solde par une relégation sportive, ce sera pas en Ligue 2, ce sera plus loin et on commence à se dire avec nos potes là qu'on voit peut-être le dernier match de notre club dans ce grand stade et dans une situation professionnelle, quoi. C'est incroyable. C'est triste, mais.
Mais qu'est-ce qui te fait le plus peur, toi, du coup, Baptiste? Est-ce que c'est le côté administratif ou c'est vraiment le côté sportif, justement?
En fait, pour moi, il y a eu des grosses erreurs au début, qui fait que le sportif, il a été plombé dès le départ, et que là, le sportif, c'est la seule chose qui peut nous sauver d'une catastrophe administrative. En fait, c'est pour moi, si on descend en Ligue 2, on descendra. Enfin, si on descend, pardon, on descendra pas en Ligue 2, on descendra plus loin.
Parce que tu parlais de la descente en Ligue 2 avec les résultats sportifs ou tu parlais de la menace qui pèse sur vos épaules?
Les deux, non?
C'est-à-dire
en
que
fait,
non.
Pour moi, si on arrive à se maintenir, on vendra les joueurs qu'on n'a pas vendus cet hiver, genre les Amadou, tout ça, 15 millions. Enfin, on saura rattraper ce qu'il faut comme argent. Par contre, si on descend en Ligue 2, ces joueurs-là, ils auront plus ou moins de valeur et on descendra, du coup, pour moi, plus bas qu'en Ligue 2.
Voilà. Ah, c'est surtout le problème.
Ouais, parce que là, tu pourrais te retrouver ailleurs qu'en Ligue 2 avant même si t'es relégué sportivement.
Je suis pas certain. En fait, je me dis que s'ils ont pas vendu cet hiver, c'est qu'ils se disent qu'on les vendra au même prix cet été si on arrive à se maintenir et voilà. Mais si on descend en Ligue 2, ces mecs-là, ils perdent déjà la moitié de leur valeur parce que, les clubs, ils vont pas mettre des milliers et des cents sur des joueurs qui ont fait descendre une équipe. Et nous, pour moi, on va finir comme un calé ou j'en sais rien. Mais c'est compliqué. Enfin,
ça sent pas bon. Hein.
C'est assez difficile, ouais.
En tout cas, ça sent pas bon et c'est très triste par rapport au projet de longue haleine monté par Seydou, parce que avant que ce président prenne le LOSC, Lille dans le panorama du football français, à part dans les années 30-40, ça n'a pas été un grand ténor du championnat de France. Là, ils avaient on va le rappeler, hein, Lilozic, etc., Puel,
monté un
club.
Rudy Garcia,
également, évidemment, avec l'arrivée,
L'arrivée de Monsieur Lecomte, la montée avec Zaïd, après, il y a Puel qui nous emmène en Ligue des Champions, on bat Manchester au Stade de France, après, il y a Rudy Garcia qui fait trois années exceptionnelles. Et là, quand je vois Monsieur Garcia qui est à Marseille, qui est en train de faire des très belles choses, ça fait mal au cœur de voir mon club qui est en train de galérer et...
Mais c'est pas seulement l'entraîneur, hein, Baptiste. Hein. Il y a, comme on l'a dit avec Ellie, je pense que le repreneur, Gérard Lopez, c'est pas un homme du football, il n'a pas la culture de ce sport. Bon, peut-être que pour monter des écuries de Formule 1, ça marche, mais là, ça marche pas.
Non, mais son truc, ça marche pas visiblement en F1 non plus.
Des erreurs de casting.
Non, mais il s'était entouré de gens qui, eux, visiblement, devaient connaître, ils connaissent d'ailleurs le football. Mais ça a pas pris, quoi. La mayonnaise, le casting a pas été bon dans
la première chose que tu conseilles,
si
tu
connais. C'est M. Bielsa, mais voilà. Quand on entend les supporters marseillais parler de M. Bielsa, c'est complètement différent, mais sauf qu'ils ne lui ont pas donné toutes les clés. Là, le problème,
il n'avait pas le même effectif.
Voilà,
il ne peut pas avoir 100% des responsabilités, Bielsa. Il n'avait pas le même effectif.
Exactement.
C'est la qualité des joueurs qui prime.
Je ne veux pas lui mettre tout sur le dos.
Mais ouais, en revanche, sur le recrutement partagé avec Campos, ça, on peut le charger là-dessus.
Sur le loft, etc.
Tous les joueurs qu'on a essayé de récupérer cet hiver, c'est lui, apparemment, qui était pour les départs. Les GK, les Terriers, les...
Attends.
Voilà, tout ça, pourquoi pas, on peut lui mettre dessus.
Baptiste, on dit que c'est pas sa faute. Il est pas arrivé au mois d'août, Bielsa. Ça fait longtemps qu'il est au courant. Et tout passait par lui. Donc, si lui a décidé d'avoir ses joueurs, c'est lui qui est responsable.
Un peu trop facile de tout mettre sur une personne, je pense. C'est un peu plus global.
Non, mais là, je parle dans le domaine technique, j'oublie l'administratif. Dans le domaine technique, c'est lui qui a donné l'aval pour tous ses joueurs, et c'est lui qui a donné aussi l'aval pour les autres joueurs qui étaient censés être dans le loft, et c'est lui aussi qui a donné l'aval pour les joueurs qui doivent être prêtés.
Tiens, l'aval qui a battu le Red Star aujourd'hui en National.
Voilà. c'est même Bielsa, c'est la faute à Bielsa.
Il y avait 3 points du Red Star.
Même pour l'aval. Non, pour en revenir que le premier fautif, ça reste quand même les joueurs et Bielsa. Et aussi, en fait, l'organigramme, que ça soit Ingla, que ça soit Campos et Lopez, qui prend la responsabilité, ils se sont complètement gourés en se disant, et je le redis encore, quand tu reprends un club, déjà, tu passes 6 mois, 1 an dans ce club, avec l'effectif qui est en place, avec les gens du club, avec les administratifs du club, tu viens pas, tu fais table rase, et tu penses que tu repars à zéro. Non, parce que tu te planteras à tous les coups.
Mais vous savez, il y a aussi une chose, alors, encore une fois, on n'est pas là pour dire que tout est la faute de Bielsa non plus, mais c'est vrai que les rapports qui étaient très compliqués avec certains joueurs qui ont abouti au loft, etc., souvenez-vous des rapports qu'il avait avec une partie du staff également, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des guerres internes. Ça a pas dû faciliter non plus les rapports.
C'est un personnage clivant.
Oui. Qui travaille au LOSC, et apparemment c'est un personnage très très compliqué.
C'est un personnage compliqué. Il y a 3 ans, j'avais bossé quelques temps avec l'Athletic Bilbao, et même s'il les a menés en finale d'Europa League, ce qui n'est pas rien, ils n'ont pas gardé humainement un souvenir impérissable.
Avec l'architecte qui construisait le centre d'entraînement.
Humainement parlant, il leur a pas laissé un bon souvenir.
Merci Baptiste, en tout cas.
Si je peux juste me permettre, je voudrais juste dire un grand merci à Monsieur Galtier, parce que c'est un ancien joueur de chez nous, et on a vu, moi j'ai vraiment vu son discours qui a changé entre le moment où il est juste arrivé, où il était très positif, et le moment où il a fait les premiers entraînements, parce que je sais qu'il a vraiment vu des choses qui l'ont dérangé, notamment Patrick Collot qui lui a fait un débriefing assez corsé, et on voit qu'il donne tout, et c'est juste ça fait plaisir, quoi, parce que notre club il va peut-être crever, mais au moins on voit qu'il est là pour nous, il fait tout ce qu'il peut, et ça c'est déjà top.
Il nous écoute, j'en suis sûr. Il écoutera le podcast, la galette.
Et un grand merci à vous.
Merci à toi, Baptiste.
Salut, Baptiste.
Bientôt, bon courage pour la suite de la saison. Ouais. Salut, Baptiste.
Merci.
Et on va accueillir un mec qui, lui, par contre, est heureux. C'est Valentin. Parce que Valentin, il est supporter du SCO d'Angers. Et il s'est imposé 2-1 à Lille ce soir. Salut, Valentin.
Salut, Nicolas, Ali, François.
Salut, Valentin.
T'as une petite pépitasse, là, du côté d'Angers, là. C'est Toko Ekambi.
Il est énorme.
Moi, je l'avais connu en national, ce joueur. Il est vraiment pas mal, ce Toko Ekambi.
Cette année.
Ouais. Ce joueur, il est vraiment super. On a vraiment bien fait.
Et d'achat, celui de le garder.
On a bien fait de le garder parce que je pense que c'est lui qui va être un des principaux artificiers pour nous aider à nous maintenir. Parce qu'on a refusé une belle offre cet hiver de 16 millions d'euros. Donc,
vous en aurez une plus belle à l'été, je pense.
Je pense aussi, oui.
C'est un bon calcul, du coup, de la part des dirigeants.
Si je te pose une question, Valentin, est-ce que tu sais combien de victoires a Angers cette année?
Ils ont beaucoup de matchs nuls, Angers, cette année.
Cette année, en première partie de saison, on gagne que trois matchs. On gagne, en première partie de saison, on gagne Amiens, Caen et Dijon, là, à 19e. Et ensuite, on a gagné à nouveau contre Amiens,
et c'est tout,
3,
le
et ce soir contre Lille.
C'est bon. Et tu n'as rien gagné.
Donc non, c'est pas un quiz, hein, Valentin. Qui a le moins de victoires.
6 victoires à peine. 6 oui, victoires voilà, en 27 matchs.
Ouais, après
victoires.
Metz, c'est l'équipe qui a le moins de victoires.
Ah ben, c'était relégable, hein, Lille, hein, ce soir. Hein.
Ah non, mais c'est pour
mais
ça.
Vrai,
ah
ouais, pourtant, ouais, contre les grosses équipes, on n'a pas été si ridicule que ça. On fait 2 matchs nuls contre Lyon. On fait le match nul au Vélodrome en début de saison. Match nul également contre Nice.
Donc, ouais, mais Valentin, je pense que le joueur qui s'est blessé très tôt la saison passée et qui n'a pas retrouvé son niveau, c'est Kempion Fonfon. Et c'était lui qui apportait un peu plus de liant offensivement parlant, de créativité. Et ce joueur-là, vous l'avez plus, en tout cas, il n'a plus retrouvé ses qualités.
Il n'a pas retrouvé son niveau. Et c'est vrai, un joueur aussi qui lui manque beaucoup au milieu de terrain, c'est qu'il avait un gros impact,
Sherendoy. Ah oui, Sherendoy, oui, il apportait énormément.
Il fixait la défense.
Mais c'est vrai que tout seul, ouais. Ce soir, quand on voit l'égalisation lilloise, c'est vrai que sur le coup, moi en tout cas, j'ai vraiment eu peur, déçu également, parce que sur le match, c'est vrai que c'était vraiment le match absolument à gagner. C'était un match à 6 points pour nous. Et derrière, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que derrière, il y a eu réaction de l'équipe et le but derrière de Toko Ekambi est juste magnifique. Mais ça fait vraiment plaisir qu'il y ait eu cette réaction et surtout qu'on ait réussi quand même à marquer. Ça faisait quelques matchs qu'on n'avait pas marqué. Donc là, ça fait du bien.
Mais en plus, à la 88e, en plus.
Oui, voilà, c'est ça. On a eu la réaction, on a réagi après le but égalisateur, et j'avais vraiment peur qu'on ne réagisse pas du tout.
Un petit mot quand même sur le deuxième but de Toko Ekambi, la volée, on en parlait avec Ali avant le début de l'émission. Ne frappez pas comme des sourds quand vous reprenez un ballon de volée.
Accompagnez le ballon. Il a que 25 ans, Toko Ekambi.
Je pense que c'est, l'année prochaine, on le verra en première ligue, ça c'est sûr, le président l'a dit. Donc, mais la frappe, oui, est vraiment magnifique. Ça c'est, il y a rien à dire. Et surtout, très bonne réaction de Pierrick Capel qui se décale pour ne pas toucher le ballon parce qu'il était, il me semble, en position de hors-jeu.
Oui, il était hors-jeu.
Merci Valentin.
Merci Valentin. Une petite dédicace, c'est à Jonathan et à Marc qui nous écoutent sûrement ce soir.
Mais bien sûr, Jonathan et Marc, on l'embrasse. Putain, mon autre papillon, il tient pas droit là. Voilà, c'est Jeff Falco qui me dit ça sur le hashtag.
Toko Ekambi qui
bonne soirée, Valentin. Merci de nous avoir appelé.
Bonne soirée.
Salut, à bientôt, ciao, Valentin. Ciao. On va faire un petit détour par le rugby au stade du Hameau avec Paul Lafitte. Il y a pour Racing ce soir, 18e journée de Top 14.
Ouais, Nico, il reste un petit peu moins de 6 minutes à jouer et le score a évolué. Le bras tendu de l'arbitre Descott est laissé pour le Racing 92 qui était mené tout à l'heure à la mi-temps sur le score de 6-0, 13-3 ensuite pour la section paloise, 16-3 puis 16-8, 16-10. Les Béarnais sont repassés avec 11 points d'avance, 21-10, mais à l'instant une nouvelle réduction de l'écart. Rien n'est fait dans cette partie. 21 pour la section paloise, 15 pour le Racing avant la transformation. Autant dire qu'on va rentrer dans un money time de 5 minutes ici au stade du Hameau.
Merci beaucoup Paul. Dans quelques instants, on va évoquer la victoire de Rennes face à l'Estac. Victoire 2-0 des Rennais donc contre 3 supporters de Rennes. Supporters de 3, on vous attend au 32-16 avec François Malardeau, avec Alébé Larbia pour la suite de l'after. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Et Ali Bellarbia et François Malardo, vous êtes présents, vous êtes là sur l'hashtag RMC Live, bien entendu. Il attend vos réactions, notre community manager Laurent Fala. On rappelle le résultat de ce soir. 27e journée de Ligue 1, 3-3 entre Toulouse et Monaco. On vous attend au 32-16 pour en parler. Dijon a battu Caen 2-0, Angers a battu Lille 2-1, 2-2 entre Guingamp et Metz. Rennes a battu 3-2-0 et victoire d'Amiens 1-0 à Nantes. Vous savez qu'il y a eu une grosse embrouille entre Camboiré et Fred Hans lors du match Guingamp-Metz. Alors sachez que Hans, l'entraîneur de Metz, n'a pas voulu commenter en conférence de presse. La question lui a été posée, il a dit « je ne ferai pas de commentaires ». Et puis vous aurez tous les détails sur rmcsport.fr. Ça vient de m'être confirmé tout de suite dans l'oreillette par Jérôme Thomas. Victoire de Rennes ce soir, 2-0 face à 3. Les buteurs Cazeri sur pénalty à la 47e, Perisic à la 72e. Deux équipes qui étaient sur la même dynamique en coup d'envoi de ce match, avec une victoire sur les 5 dernières rencontres. Et Rennes.
Quelle dynamique!
Non mais justement, c'était pas jojo, hein, forcément.
Pas folichon.
Et Rennes, avec cette victoire, monte à la 7e place. Ils ne sont qu'à un point de Montpellier et Nantes, et qui sont aux portes de l'Europe, finalement, ces deux-là. Vous en avez pensé quoi des Rennais ce soir, messieurs?
Pas grand chose par rapport à l'adversaire troyen et poussif.
Propose rien du tout.
Après, on pourrait regarder le verre à moitié plein en disant oui, alors réaliste, et puis il récupère les trois points. Alors même quand il joue pas bien, mais en fait tu peux pas dire ça de Rennes, parce que c'est des matchs qui se ressemblent un peu les uns à la suite des autres. C'est juste par rapport à l'adversaire qui vont en face d'eux. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va moins bien se passer avec un nul? Bon, bah ce soir c'est trois qui. Faut le rappeler, hein, qui a accédé à la Ligue 1 par les barrages et qui vont peut-être les retrouver à la fin de la saison, vu ce qu'ils proposent. Mais pas grand-chose d'autre à dire, Nico, sur ce match de 3. Moi, bon, il y avait en revanche, on se disait avec Ali pendant la pub, qui me faisait remarquer que de la 6e place de notre championnat jusqu'à, bon, bah, évidemment, quand tu vas dans les bas-fonds du classement de la Ligue 1, tu as des équipes avec des golavrages négatifs et plus de défaites que de victoires. On parle bien des équipes à partir de la sixième place.
La 20e place, c'est négatif.
Pas loin, à mon sens, d'être.
C'est toutes
historique.
Les équipes. Non, c'est là, pas c'est quelques équipes.
Sixième.
Sixième.
Nantes est sixième avec un golavrage négatif. Moins un.
Ah, golavérage, ok.
Oui, et plus de défaites.
Bah, Nantes, moi, j'ai zéro. Hein,
oui, parce que tu as dit que tu n'as pas la 27e. T'actualises.
Je suis pas actualisé, ok.
Moi, je suis très actualisé.
Je viens de te passer le ballon, Ali, là.
Non, c'est pas ça. Non,
mais attends, donc en gros.
Je reprends encore.
Normalement, c'est toi qui
joues. Je reprends encore Rennes. Ils n'ont rien proposé ce soir. Et par contre, tu parlais de Troyes. Par contre. Quand on les voit jouer, ils changent de rythme, ils proposent des choses offensivement avec le ballon. Malheureusement, on en avait parlé avec, c'est quoi, Jean-Louis Garcia, le coach de Troyes, oui. Qu'il avait un problème à la défense, lui disait non, moi ma défense elle est bien, on a travaillé et tout, tu as peut-être travaillé ta défense, mais ce qui va te coûter la deuxième division, c'est ta défense, parce que au milieu, offensivement, dans le développement du jeu, même à l'extérieur, ils ont pu proposer plus de choses intéressantes pour s'approcher du but que Rennes. Alors que Rennes, c'est amorphe. Et si on compte les points qu'ils ont gagné Rennes en gagnant leur match avec un contenu très faible, c'est ce qui leur permet d'être à ce niveau-là.
C'est le reproche qu'on fait souvent à Montpellier, par exemple, aussi. Hein.
Et je vais oublier Montpellier, Pierre, rien que pour t'embêter, pour en revenir que Bordeaux, qui était à la cave 19e, c'est eux qui vont leur gratter la 5e place. Mais alors ça se sent... Non, c'est Bordeaux que tu vas avoir. Bordeaux. Bordeaux va battre Nice.
Nice et Bordeaux sont à égalité de points.
Oui, mais Bordeaux qui revient de la 19e place et qui a l'habitude de se retrouver européen, tu vas voir qu'ils vont gratter cette 5e place devant tout le monde.
Mais pourquoi tu trouves. Parce que tu trouves que c'est mieux dans le contenu aussi?
Qui, pour Bordeaux?
Ouais.
Non, parce que Bordeaux, ils ont mangé un peu leur pain noir. Tout repart là. Élan. Et eux, ils ont beaucoup plus l'habitude de se retrouver dans cette fameuse 5e place.
Moi, je suis quand même curieux de voir. Alors, Bordeaux, hein, c'est demain, on le rappelle. Je suis quand même curieux de voir comment ils vont se relever, parce que c'est une équipe de cycle, hein, notamment là. Ils restent sur une défaite face à l'OM où ils n'ont pas été très bons, même si la défaite, elle n'était pas scandaleuse. Mais ils n'ont pas été très bons. Moi, j'attends de voir quand même le match face à Nice. Hein.
Ouais, mais Nice, ça va pas. Nice, ça va pas.
Je te l'ai donné.
Merci, François. Bonne soirée.
On va lui donner.
Salut Arlo.
Il a commencé par ça.
Excuse-moi de vouloir te faire exister.
Mais je t'ai fait deux minutes sur Rennes. Arnaud, je suis généreux en plus.
Arnaud, bonsoir. Il est là, Arnaud, ou pas?
Bonsoir.
Salut Arnaud.
Arnaud. Tu t'es endormi devant le match ou quoi, là, Arnaud, là-haut?
Ça va ou pas?
Et toi, alors?
Ça va ou bien?
Ouais, c'est vrai que.
Endormi depuis la troisième, quoi.
Ça fait quelques années que Rennes, c'est narcoleptique, hein, comme football. Hein.
Ouais, c'est pas fou.
Ah bon, au final, c'était pas troisième minute, ça fait peut-être trois ans. Ouais, peut-être.
Là, je suis d'accord avec toi, Arnaud.
T'as pas aimé visiblement le contenu du match du Stade Rennais, toi?
C'est compliqué. Après, il y a pas d'explication. C'est très compliqué. C'est moche. Il y a pas de jeu, que ce soit tel ou tel entraîneur. Dans tous les cas, ça changera pas pour l'instant. Donc, au final, c'est pas une question de coach ni de ce qui est autour. C'est qu'il y a un problème de la base, quoi.
C'est les joueurs.
C'est quoi les joueurs alors?
Je vais rajouter une chose. Arnaud, je vais rajouter une chose parce que. Je l'ai regardé, il m'a fait encore de la peine aujourd'hui. Mais je ne comprends pas que ni le club, même, je veux dire, Sabri Lamouchi, insiste avec Yohan Gourcuff. Il n'y arrive plus, je ne parle pas au niveau football, il n'y arrive plus physiquement. Il ne peut pas courir. Pourquoi il insiste à vouloir le faire jouer? Pourquoi les autres insistaient à vouloir absolument le faire jouer? Là encore, Rennes a joué à 10.
Ali, tu sais pas, peut-être... On n'y est pas à la pie, c'est la pivardière, hein, c'est ça le sens.
Non, j'ai pas besoin de faire l'entraînement, je regarde le match.
Non, mais d'accord, mais tu sais comment ça se passe. Peut-être qu'aux entraînements, ils montrent des choses, et après, en match où la pression n'a plus rien à voir, évidemment, peut-être qu'il disparaît.
Mais c'est même pas une question de pression ou de
technique. Je suis d'accord avec toi,
je parle pas de football. J'oublie le football.
Non, physiquement.
Je veux pas qu'il joue bien, mais même pas physiquement, dans sa façon de courir, de se déplacer. j'ai affaire à un joueur qui ne peut plus jouer. Je parle pas d'un joueur qui a 38, 39 ans.
Tu dis quoi, que Yann Gourcuff doit arrêter le foot?
Ça fait déjà quelques années qu'il a dû arrêter, le pauvre.
Mais attends, il n'y a... Mais tu... C'est visuel. Et moi, j'ai de la peine. Moi, ça me fait de la peine.
Je pose une bonne question. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, alors?
Je la partage.
Pour lui,
je
ne
suis pas à sa place.
Non, mais t'es en train de dire quoi, en fait? Il doit aller dans un autre club, dans un championnat. Il doit aller à quoi? En Chine? Non, MLS, non, parce qu'il faut courir.
La machine, ils ne vont pas le prendre en Chine. C'est même pas ça. Je ne parle pas de MLS. Au pire, la MLS.
En fait, tu dis qu'il est cramé, quoi.
Complètement, ça se voit. Et la MLS, je suis désolé, François.
Non, mais il faut courir.
C'est très physique, la MLS.
Il faut courir, oui. Bah, oui.
On va prendre l'avis d'Arnaud sur Gourcuff, Arnaud.
Ou je me trompe, Arnaud, peut-être. Hein.
Non, il n'y a pas de tromperie. Il a plus de physique. Il a eu le physique pendant 3, 4, 5 ans, grand maximum. Mais c'est fini. Il a eu de la chance parce que son corps l'a suivi un tout petit peu, mais il a été blessé. Quand il a commencé, quand il avait 16, 17, 18 ans, il a fait une saison et demie, deux, max. Il est monté en plein régime au Stade Rennais. Il est parti, le monde du bilan, c'est, ça a duré 4-5 mois, il s'est blessé, il est revenu 2 mois, il s'est blessé, il a remonté gentiment, Bordeaux l'a racheté, et puis c'était fini. Fini, il a fait une belle saison et demie, et voilà.
Arnaud, je sais qu'à Rennes, les supporters ont souvent l'habitude d'entendre ça, mais Sabrina Mouchi, il est arrivé en cours de saison, c'est pas vraiment son effectif. Il y a un nouveau président, il y a un nouveau souffle qui a été donné.
Ça, c'est sûr.
Voilà, est-ce qu'il faut pas attendre? Alors, je sais que vous en avez marre d'attendre les Rennais, mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a quand même eu pas mal de changements ces derniers temps.
Changement, sachez qu'à Rennes, le président n'a pas changé.
Non, mais le mec qui gère au quotidien, c'est plus le même, quoi.
Si. Je pense que si.
C'est Olivier Létang qui est là maintenant, il vient d'arriver.
Oui,
mais c'est pas un président. Donc en soi, le nom qui est au-dessus, il est peut-être dans les nuages, mais c'est toujours le même. Et ça changera pas pour l'instant.
Tu parles du propriétaire, toi, du club, c'est ça?
C'est la même personne.
Non mais d'accord, mais t'as un DG, un directeur qui a été nommé, qui gère au quotidien.
Non.
En Angleterre, c'est pareil.
Mal, Olivier.
Le proprio, c'est pas le même.
Je vois mal Olivier Létang jouer les utilités.
Non. Je pense que...
Ah non, lui, non, c'est au-dessus que je parle.
Ah bah oui, non, mais au-dessus, je pense pas non plus que vous ayez des présidents.
Non, mais ce que veut dire Arnaud,
le président façon Aulas.
Non, mais ce que veut dire Arnaud, c'est que c'est pas lui qui est le décisionnaire.
Je comprends ce qu'il voulait dire, mais je suis pas d'accord avec lui, tout simplement.
Non.
Merci en tout cas, Arnaud, de nous avoir appelé. Voilà. Oui, vraiment,
moi, je pense que l'État est décisionnaire. C'est peut-être pour ça qu'il a pris cette position.
Oui, il ne serait pas venu pour faire l'homme de paille.
Exactement.
C'est terminé au rugby entre Pau et le Racing, Paul Lafitte.
Ouais, Nico, avec une nouvelle victoire pour la section paloise sur le score final de 24 à 15. Deux essais marqués par les Bernais, deux essais côté francilien. À noter ce soir que Pau met fin à une très très belle série du Racing qui restait sur 8 matchs sans défaite, toute compétition confondue au classement. Le Racing est toujours deuxième avant la rencontre de La Rochelle demain. Ce sera en milieu de journée. Les Bernais remontent au 5e rang. Et puis l'enseignement aussi, cette information d'importance, la blessure, on le rappelle, de Teddy Thomas, l'ailier international du 15 de France et du Racing, qui est sorti à la 50e, qui boitait bas au niveau du genou. On en saura certainement un petit peu plus en fin de soirée, en conférence de presse d'après match. On demandera des nouvelles de Teddy Thomas. On rappelle donc la victoire de Pau, qui est toujours en course pour le top 6 face au Racing. Score final 24 à 15 ici au stade du Hameau.
Merci beaucoup Paul, et rentre bien, sois prudent sur la route. Non mais prends soin de toi, Paul.
Ouais, mais j'habite pas très loin, donc ça.
Oui,
va
mais c'est souvent dans les trajets les plus courts, tu sais, qui sont les plus dangereux, Paul. Donc
c'est sûr.
Commence pas à faire le kéké. Hein.
Vigilance.
Merci, salut Paul.
Salut
bonne
messieurs,
soirée.
Bonne soirée.
Ciao. Tiens, sachez que le Barça est en train de cartonner face à Girona. Ils étaient menés 1-0, mais ils
6-1.
Ouais.
C'est juste à côté, hein. C'est ça.
Et l'Inter mène 2-0 face à Girona.
C'est un derby. C'est pas la même ville, mais c'est un derby.
Ouais, de Catalogne. Et le Benfica mené 1-0 à Passos de Ferreira. On reste en Bretagne, puisqu'on l'évoquait il y a quelques instants en Rennes. On file à Nantes. Là, il y a tout le monde. Victoire d'Amiens à Nantes, 1-0. Le seul buteur de ce match, c'était l'un des trois points de François Manardo, Gaël Kakuta, 5e but cette saison pour Gaël Kakuta. Et le FC Nantes qui rechute. Le FC Nantes qui en crie
2. Il a déposé Palois.
Ouais, c'est magnifique. On voit le but sur BFM Sport notamment. Et après, il va claquer un plat du pied gauche dans le petit filet.
Parce qu'un défenseur comme Palois se faire éliminer sans aucune feinte, ça par contre, c'est incompréhensible.
Ouais.
Ouais. Ça va trop vite pour lui.
Là, par contre, il joue bien le coup, Kakuta, techniquement, de frapper devant le défenseur pour que Tata Roussanou ne le voit pas. Mais c'est le fait qu'elle soit légèrement...
Il enroule le ballon.
Non, c'est le fait qu'elle soit légèrement déviée qui trompe le gardien.
Vous savez que c'est une vraie...
J'ai pas vu qu'il était dévié.
C'est une vraie perf de la part de Damien, puisque Nantes était au coup d'envoi de ce match la meilleure défense à domicile et Amiens était la pire attaque à l'extérieur. C'est-à-dire que sur le papier, c'était Nantes le favori également. Ça s'est pas forcément vu d'ailleurs.
On parlait de Goulavirage. Alors, ce qui me fait drôle, c'est que on a trouvé beaucoup de points négatifs avec François au niveau de la différence de but. Et aujourd'hui, c'est dans les 6 matchs, on a 18 buts quand même.
Oui, c'est pas mal, oui.
3 buts par match, ce qui est pas mal du tout. Mais le problème, c'est qu'ils en prennent pratiquement autant. Parce qu'on a vu, il y a des 2-2, des 3-3. C'est peut-être pour ça. La plupart des équipes qui marquent beaucoup de buts en prennent beaucoup.
Et il y a eu des pénaux ce soir et cet après-midi. Franchement, un peu sévère. Je pense notamment le pénalty sifflé contre Camille Glick.
Ah bah d'ailleurs, il y a une grosse gueulante. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Alors, Jardine et Radji, par exemple, ont tapé une grosse gueulante à l'égard de l'arbitrage.
Qui s'en prennent eux-mêmes quand même, Monaco. Hein. Oui, quand t'es à 3-1, je suis désolé.
Aussi.
Et que tu joues à deuxième place, tu vois. Et je reviens encore à une chose, c'est que Monaco, c'est très fébrile défensivement, même si on peut dire qu'il y a un pénalty. Tous les adversaires se créent des occasions, aussi bien à l'extérieur qu'à lui deux, se créent des occasions face à cette équipe de Monaco, ce qui n'était pas le cas la saison dernière.
Sur le match Nantes-Amiens, qu'est-ce que vous en retenez?
Ben, je reconnais plus Nantes, c'est fini. Je reconnais plus Nantes depuis que je pense que Ranieri n'avait pas trop aimé le mercato d'été. S'attendait à un bon mercato en hiver, n'a toujours rien eu. Je pense qu'il a un petit peu lâché à ce niveau-là. Et l'appel du pied de l'équipe nationale d'Italie, je pense que les ressorts ont un petit peu explosé.
Pourquoi tu penses qu'il a déjà la tête ailleurs?
Non, mais avec ce qui se passe à Nantes et le fait que notre ami Kita lui ait pas donné ni au mercato d'été ni au mercato d'hiver des balles pour un petit peu progresser avec son groupe et peut-être avoir des joueurs qui puissent faire beaucoup plus la différence que le fait Nantes, bah automatiquement ça se ressent et le groupe le ressent.
Moi je trouve que c'est une équipe qui physiquement a décliné depuis quelques semaines parce que c'est un jeu, les Nantais, c'est une très grosse assise défensive et puis cette capacité à se projeter de l'avant, alors pas comme il le faisait avec Conceição, mais d'une manière plus en bloc comme ça, et là physiquement quand ça commence un peu à battre de l'aile, forcément tu vois plus de failles, plus de lacunes, et je pense que c'est ce qui pèse sur les épaules de l'effectif nantais. Il faut qu'il retrouve comme ça un second souffle. On est aussi dans une période de la saison où tu vois certaines équipes non pas monter en puissance, mais être mieux, parce que la montée en puissance, ça se prépare en début de saison, et d'autres, avoir une phase de déclin comme ça, et Nantes, je pense, en fait partie. Après, ce que tu dis sur Ranieri, je l'entends aussi, peut-être. Peut-être que ça joue.
Merci messieurs. On va se faire une petite respiration.
Une petite
respiration.
Ça va, une respiration.
Je vais être très transparent avec toi qui nous écoutez avec vous les mecs. Ça, on a des éléments de langage à respecter.
Ah,
hein, on dit pas ce qu'on veut.
Alors,
mais heureusement.
Et vous savez, il y a un élément de langage. Vous êtes dans l'after, on est en direct. Il y a la réaction de Christophe Galtier qui est en conférence de presse.
C'est un sentiment de quoi? De colère, de déception, de rage, enfin je sais pas.
Oui, de rage. De rage et de déception. De la déception parce que on a joué contre un adversaire, un concurrent direct. Que tout était quand même identifié chez l'adversaire. Eux aussi nous ont bien identifié. Et que on a trop peu mis d'intensité ou de rythme dans notre jeu pour pouvoir bousculer ce gros bloc défensif avec beaucoup de monde à l'intérieur du jeu et avec une capacité à se projeter vite vers l'avant. Donc on était exposé à des contres. On aurait dû passer plus souvent par les côtés, et malheureusement on l'a pas assez fait et on s'est exposé au contre Angevin. Donc ça c'est de la déception parce qu'on perd et qu'il y avait sûrement beaucoup mieux à faire, trop d'imperfections sur un plan technique et trop de largesse sur un plan défensif. Après de la rage, automatiquement le scénario ne peut vous mettre que dans un état de rage. Parce qu'on a quand même le bonheur, je dis bien le bonheur, de revenir au score à quelques minutes de la fin du match. Et qu'on renouvelle encore les mêmes erreurs. Tout à l'heure, j'ai mis du temps de venir parce que j'ai échangé longuement avec le président, qui évidemment a suivi le match. Et on s'est retrouvé sur la même phrase en disant, c'est tout d'abord très difficile de gagner un match. Mais on se bat aussi contre nous-mêmes. on joue contre nous-mêmes. Mais c'est dans ce sens-là que la tâche est difficile. Parce que même si Angers s'est créé des situations, même si nous nous sommes créés quelques situations, même je trouve qu'on voilà, on a très peu de réussite dans nos tirs. On a le bonheur de revenir au score à la 88e ou 89e minute. Et à ce moment-là, encore patatrac. Les 2-3 minutes qui ont suivi le but, on prend un but, comme contre Strasbourg, comme contre Rennes deux fois, à Nantes aussi. Est-ce que ce groupe est capable d'apprendre de ses erreurs? Est-ce qu'on est capable? Pour l'instant, dans ce domaine-là, on a du mal à apprendre.
Voilà, c'était la réaction en direct hein, de oui. Christophe Galtier. Des mots très lourds, hein, très forts hein, de
oui,
l'entraîneur du
LOSC. Des mots, hein, des mots il est marqué visiblement. Alors des mots forts sans doute. Après, il dit très poliment qu'il a une équipe qui ne sait pas défendre. Que ce soit avec lui ou avec Bielsa, c'était déjà le cas.
Allez, on se fait une petite respiration, comme je disais tout à l'heure. Et on revient dans quelques instants. On sera avec une belle surprise, l'un des vainqueurs de cette soirée. Sanine Perisic, tu seras en direct dans l'after juste après ça. Ah ouais, c'est
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarabia et François Manarado, avec vous également au 32-16. Vous êtes très présents sur l'hashtag RMC Live, bien entendu, ce soir, cet après-midi même, 3-3 entre Toulouse et Monaco, supporters du TFC et de l'ASM, on vous attend au 32-16. Victoire d'Amiens à Nantes, on en parlait il y a quelques instants, 1-0. Rennes s'est imposé 2-0 face à 3, 2-2 entre Guingamp et Metz. Angers est allé s'imposer 2-1 face à Lille, Lille qui est avant-dernier de Ligue 1 ce soir. Et Dijon a battu Caen, 2-0. On a donc l'AS Monaco qui n'a plus que 2 points d'avance sur Marseille, qui jouera demain au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Demain, il y a également le choc, le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Lyon qui est 4e avec 49 points et Saint-Etienne qui est 12e avec 33 points. On évoquait donc le Stade Rennais il y a quelques instants. On sera d'ailleurs avec Sanine Perisic dans quelques secondes, parce que là, il a des problèmes de connexion. Guingamp-Metz, messieurs, c'est ce soir également. 2-2 entre les deux équipes. Mollet et Roux ont marqué pour le Guingamp. Et c'est un doublé de Metz. Et c'est un doublé de Lucado pour les Guingampais. Match pas mal, ça, par contre. Toi, tu disais que dans le jeu, t'as pas aimé Guingamp.
Du tout.
Le scénar était sympa, quand même.
Le scénario, oui. Mais alors, du tout. Du tout, dans le sens où Guingamp, ils ont perdu un petit peu leur assurance offensive à domicile. C'était leur force. Et là, c'est pas évident, parce que la preuve, hein, c'est qu'ils concèdent trop d'occasions face à une équipe de Metz qui est encore, on va le dire, dommage qu'elle n'arrive pas à tenir le score. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle est dernière du classement. Hein. Faut se dire, parce qu'ils arrivent toujours à marquer des buts, mais ils encaissent.
Elle est étonnante, hein, cette équipe de Metz, quand même.
Ah, oui.
Parce que même au moment où on se disait, ils sont au fond du trou, ils reprennent l'avantage.
Mais comme on s'était dit une fois dans cette émission, dès qu'ils envoient un peu la lumière, hop là.
Ça replonge.
Ils se chient dessus un petit peu. Oui. Et maintenant qu'ils sont un peu décrochés, ils reviennent, ils mènent deux fois au score.
T'as l'équilibre, en fait, dans une équipe, c'est savoir attaquer. On dit oui, mais bon, il faut un petit peu se démunir quand t'attaques. Je suis contre, tu peux attaquer en montant ton bloc défensif, en disant au gardien de ressortir au niveau 18 mètres, ça ne veut pas dire que tu vas te faire prendre en contre-attaque. Et le problème de Metz, c'est que quand ils attaquent, ils en oublient que l'équilibre est important.
Messieurs, je vous coupe. Priorité au direct. Chose promise, chose due. C'est l'un des vainqueurs de la soirée. Sanine Perisic est avec nous en direct dans l'after. Bonsoir Sanine.
Bonsoir Sanine.
Bonsoir.
Déjà, première question, est-ce qu'on prononce bien ton nom?
Presque.
Alors vas-y, corrige tous les commentateurs de France et de Navarre. Comment se prononce ton nom?
Le prénom est très bien dit. Par contre, le nom.
Perisic.
Allez, on va dire.
C'est Perisic.
Perisic.
Merci beaucoup. Bonne soirée, Sanine. Non, je déconne. Voilà, c'était juste pour toi. Bravo déjà pour cette victoire. Bravo pour ton but également, Sanine.
Consonnes, quoi.
Ça n'a pas été simple, hein, quand même.
Merci.
Ça n'a pas été simple face à l'Estac ce soir.
Non, ça n'a pas été simple, surtout en première mi-temps. L'Estac est venu avec un bloc très très compact et assez bas sur le terrain. Et puis nous, je pense qu'on n'a pas mis assez de rythme dans nos échanges pour les mettre en difficulté. Et puis on manquait un peu de mouvement, donc on n'avait pas beaucoup de solutions. Et puis c'est pour ça que on a eu un peu de déchets techniques. Et puis on est très bien rentré en deuxième mi-temps avec ce débordement d'Ismaïla et ce penalty obtenu très rapidement. Voilà, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a eu beaucoup plus de maîtrise et on a mis plus de rythme dans nos échanges. C'est ce qui nous a permis de marquer ce deuxième but en jouant un peu plus haut et en récupérant les ballons plus haut.
Sanine Persic est en direct avec nous dans l'after. Sanine, avec cette victoire, Rennes est 7e avec 38 points. Vous êtes qu'à 1 point de Montpellier et Nantes, vous êtes qu'à 1 point de la 5e place. Est-ce que vous y pensez à cette place éventuellement, très probablement, voire même européenne?
Non, mais on lutte, voilà, on lutte. L'objectif de ce soir, c'était de prendre les 3 points. Alors là, c'est chose faite. On a 38 points ce soir, donc je pense que notre objectif est évidemment d'aller essayer de chercher chaque week-end des victoires et des performances plus abouties. Donc voilà, on regarde, il y a encore beaucoup de matchs, donc je pense qu'il faut rester humble après cette victoire et continuer à travailler. Et puis on fera les comptes un peu plus tard.
Sanine Persic est en direct avec nous dans l'after, numéro 10 du Stade Rennais, l'ancien numéro 10 du Paris Saint-Germain. Ali Benarbia, une question pour toi, Sanine.
Bonsoir, Sanine.
Bonsoir.
Tu as connu un petit peu à la fois la façon de jouer de Gourcuff. Là, Sabri Lamouchi a récupéré l'équipe et depuis un certain match, essaye de faire évoluer cet effectif, puisqu'il ne l'a pas choisi spécialement. J'aimerais que tu me dises... Au début, je pensais qu'il allait y avoir un changement, surtout qu'on dit que les équipes arrivent mieux à évoluer quand elle est plus sûre d'elle, surtout après les victoires qu'il y a eu. Et je ressens encore que cette équipe de Rennes retombe un petit peu dans ses travers, où parfois elle n'arrive pas à élever le rythme pour écraser l'adversaire et elle s'endort. Est-ce que tu ressens ça, toi qui es sur le terrain, entre les moments où ça allait bien ou moins bien du temps de Gourcuff, où là, malgré les victoires... Cette équipe de Rennes, de temps en temps, elle est en train de retrouver un petit peu cet esprit mollasson.
Non, je pense pas. Après, voilà, chaque match a sa vérité. Chaque match, il faut batailler, il faut mettre des ingrédients importants pour aller chercher des points. Et puis ensuite, avec le ballon, faire des choses avec beaucoup de maîtrise. Donc voilà, comme je dis, chaque match a sa vérité et puis le coach arrive à nous transmettre beaucoup de confiance et voilà, on essaie de le rendre sur le terrain. Bon, on essaie de le faire de la façon le mieux possible, mais après il y a un adversaire aussi en face, mais voilà, ça dépend comment l'équipe joue aussi en face, mais nous on fait le maximum sur le terrain pour aller chercher les points et ce soir on les a, donc on est très content.
Sanine, il y a une chose qui est frappante quand on regarde le bilan comptable de Rennes à la fin de cette journée, c'est que vous avez autant de victoires que de défaites, 11-11, et vous avez un goalavrage négatif.
Moins 1, c'est pas non plus...
Moins 1, certes, mais c'est surprenant pour un 7e.
Ah oui.
Non, mais c'est pas infamant.
Non, okay,
un goalavrage négatif, c'est surprenant pour un 7e. Sanine, comment est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce que nous, on est à l'extérieur, on est en dehors de ça, mais on observe, on essaie de décrypter, de comprendre, et on a du mal, enfin moi en tout cas, j'ai du mal à comprendre le rythme de cette équipe rennaise, ou comment elle arrive à se retrouver dans cette situation, puisque tu nous dis toi-même... Ben, il faut mettre un peu plus d'envie, un peu plus de mouvement, un peu plus de rythme.
Ben, je vais pas répondre à sa place, mais c'est vrai que la saison a été quand même pas mal mouvementée, Sanine.
Non, mais écoutez, sur les 3 derniers matchs, on va dire qu'on est quand même dans une certaine continuité. Je veux dire, on est allé gagner à Lyon, c'était un super résultat, 2-0. Et puis ensuite, on est à Lacan, on a fait un résultat nul qui est quand même resté positif. Et puis là, ce soir, une victoire. Voilà, c'est sûr que nos performances, on doit encore beaucoup travailler, mais puis c'est ce qu'on fait. Au quotidien avec le coach, on échange beaucoup, donc il nous apporte énormément. Maintenant, voilà, je le répète, on a encore une marge de progression assez importante. Et puis cette équipe a un potentiel, donc je me fais pas trop de soucis. Mais ce soir, on est vraiment très content. Et puis cette victoire, elle va nous donner de la confiance, comme celle d'avant. Et on va continuer par des bonnes performances tous ensemble.
Sanine, j'ai une question qui est plus personnelle. T'arrives en fin de contrat, en fin de saison. Ton nouveau président exécutif, Olivier Létang, a expliqué que les discussions étaient arrêtées. Ça en est où? Est-ce que toi, t'as déjà pris une décision? Tu partiras du Stade Rennais à la fin de la saison, quoi qu'il arrive, ou pas forcément encore?
Non, écoutez, ce soir, j'ai pas du tout envie de parler de ma situation personnelle. Voilà, si vraiment vous avez des questions à me poser sur le match, j'y réponds avec grand plaisir. Mais bon, pour mon avenir, voilà,
On verra en fin de saison.
Je n'y réfléchis pas pour le moment. Ouais.
D'accord. Enfin,
j'y réfléchis, je me pose des questions, mais j'ai
mais pas. Mais c'est pas pour nous ce soir. En tout cas, pas pour Nicolas Villas.
Non, mais t'as premier coup. À vous, t'as premier truc pour West France, c'est ça?
Non, il y a pas de problème.
Non, mais je déconne, Sanine. Il y a pas de souci, on respecte. Merci en tout cas d'avoir été
merci
avec nous encore. Bravo
merci
pour ce but. Bravo pour cette victoire.
Merci à
et bisous à Sabri Lamouchi. Merci Sanine.
Bonne chance.
Salut, merci Sanine. Bonne soirée.
C'est un bon communicant comme joueur. Hein.
Ouais, il est pas mal. Ouais, beau joueur.
Pas beaucoup de titulaires.
T'as pas assez dit Sanine, mais t'es un beau joueur. Voilà, sache-le.
Il a bien répondu.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il fasse la bise à Sabri. Il a dit non.
Bah si, pour aller dire. Écoute, j'étais avec l'after. Ils te font la.
J'oserais pas.
Ils te claquent la bise.
Tu dis la bise à tes coachs.
Tiens, ça t'est arrivé ou pas? Tiens.
Non.
De claquer non. La bise à tes coachs.
Tu faisais la.
Pendant que je jouais, non. Le seul que
Luis Hernandez, on est en train de me dire dans l'oreillette.
Oui, Luis.
Demande-lui. Pas pendant
qu'il était coach. Après, Luis. Et Kevin Keegan aussi, après.
Après quoi? Vous faisiez quoi?
Après que je ne joue plus dans ce club-là.
Ouais, d'accord. Et pendant que tu jouais?
Je dis bonjour. Bah non. Je serai la main. Non.
Tu claques la bise, toi, François Pesanti?
Mais tu ris. Je peux pas raconter tout ce que je fais, d'accord? Je tiens à garder cet emploi, bien entendu.
Chose.
Hashtag, voilà. Hashtag tu le fais, toi, la bise, toi?
Hashtag la
moi,
barbe.
Je le croise beaucoup, beaucoup moins que toi.
Hashtag
moins
la barbe.
Souvent dans les bureaux vrai. Que toi.
Est-ce que tu faisais la bise à Raymond Domenech? Excellente question.
Absolument pas. Et j'étais le seul dans le staff à le vous voyez.
C'est vrai?
Oui.
Et pourquoi?
Parce que c'était le coach de l'équipe de France et que ça s'est trouvé comme ça, ouais.
J'étais le seul à le tutoyer, c'est marrant, tu vois, quand je connaissais. On va revenir au match dans lequel on était, le 2-2 entre Guingamp et Metz. Alors, vous savez, on vous expliquait, on vous rappelait ce qui s'était passé en fin de match, l'embrouille entre Antoine Comboiré et Frédéric Hans. Alors, Fred Hans a expliqué en conf de presse qu'il voulait pas s'exprimer sur le sujet. Antoine Comboiré, voilà, Antoine Varnier a mené sa petite enquête. Déclaration en conf de presse d'Antoine Comboiré. Monsieur Frédéric Hans est venu me dire de rester dans ma zone technique. J'espère qu'il a compris que c'était la première et la dernière fois. J'ai horreur de ça. Voilà, visiblement, c'est parti. Voilà, c'est une histoire d'homme.
Ouais, voilà. Ouais, ça, c'est une bonne chose parce que j'arrive toujours pas à comprendre. Je suis pas entraîneur, hein, de m'occuper de l'autre entraîneur. Il fait ce qu'il veut, il va où il veut, qu'est-ce que je m'en fous. Moi, le plus important, si je suis coach, c'est mes joueurs, ce qu'ils font. C'est pas parce que je vais me déplacer d'un mètre ou pas que ça va changer quelque chose, et c'est ce qui me fait rigoler.
Ok, allez, on nous revient dans quelques instants. Supporters de Monaco et de Toulouse, on vous attend au 32-16, Dijon-Caen également. On est à J-1 du choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, à J-1 du derby entre Saint-Étienne et Lyon. Supporters de tous ces clubs et bien plus encore, on vous attend au 32-16 avec François Malardo et Ali Benarbi. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'After Foot.